Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe, mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombache, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa ficelle. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir, pendant leur parole, la tonton qui soupire et qui s'écrit comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant « Soyez sages ». Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Tonton, devant ce résultat, ne se dégonfla pas et joua les andouilles. Au tribunal, on l'a traîné et devant les jurés, le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu, comme mon âme et conscience, en détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant, l'élu immédiatement chef du gouvernement.
Bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs de Civis Pacem, l'émission de l'Union pacifiste sur Radio Libertaire. Dans notre émission aujourd'hui, nous allons parler des Black Panthers. Les Black Panthers, ces Noirs américains qui ont affronté le racisme et la violence de la police des Blancs dans les États-Unis des années 1960. Alors nous allons le faire à travers l'histoire de Jean et Marvin McNair, étudiants américains nés en Caroline du Nord, étudiants américains auxquels l'historien Sylvain Patieu a consacré un livre publié en août 2022. Ce livre est intitulé « Panthères et pirates ». Alors pourquoi pirate? Parce que ces militants ont fui les violences policières des États-Unis en détournant un avion. Réfugiés en France depuis 1975, Jean McNair est malheureusement décédé le 29 octobre 2014, mais Malvin, toujours actif depuis 50 ans de présence en France, a commencé depuis quelques années à témoigner de ses engagements pour les droits civiques aux États-Unis. Alors pour commencer cette émission, nous allons d'abord entendre ce que Malvin déclare dans un documentaire sur les Black Panthers diffusé sur Arte en 2020.
Nous sommes tous panthères, quel que soit, donc après, même les jeunesses. Et le panthère, c'est pas une question de couleur, c'est une question d'esprit et de façon d'être. Et donc, je crois qu'il y a aussi des gens qui sont blancs, que je considère comme des panthères. Donc après, pour moi, les panthères sont partout. Black Lives Matter, c'est des panthères. Obama, c'est un panthère. Utiliser le droit constitutionnel pour porter d'armes, pour dire stop. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment courageux. Parce que donc, de toute façon, il y a un moment donné, avec tous nos chefs, nos leaders qui étaient assassinés, tués et tout ça, même j'étais élevé dans l'église, mais on avait du mal à tourner l'autre joue. Donc on a dit, tiens, c'est comme on dit, à un moment donné, il nous gifle, donc il ne faut pas qu'il nous gifle deux fois. Donc après, il faut se défendre. Au niveau de conscience politique, au niveau du mouvement de Martin Luther King, Malcolm X, et après avec les panthères, on a dit ça, que oui, les panthères ont assez plus de réponses à de ce qu'on voulait au niveau de résistance. On voulait plus être tapé dessus, on voulait pas être brutalisé, on voulait pas être torturé et ni humilié. Donc on a dit stop. La violence était toujours provoquée de l'extérieur et donc c'était pas la violence que à l'origine de l'origine, c'était pas la violence de Panthère, la violence qui venait de l'extérieur, de répression policière. Donc voilà. Donc après, pour qu'ils se défendent, pour pas être assassinés, ils étaient mis sur le défensif. Déjà, ils étaient attaqués. Donc, comme ils disaient, les Panthères, justement, c'est un animal défensif. Donc, il peut reculer jusqu'à un moment qu'il recule plus. Et donc, c'était justement ça que les Panthères, avec la brutalité policière, le fait qu'ils étaient constamment subit beaucoup de violence et choses comme ça. Donc, le saut réaction pour eux, c'est de défendre. Donc, de défendre contre les attaques policiers. Avec tout ce qui se passait avec les Panthères, avec Martin Luther King, Malcolm X, on savait qu'on était ciblé. Et donc, après, quand la police dit, tiens, essayez, on vient vous chercher, on était ciblé. Donc, à un moment donné, il n'y avait plus le choix. Il fallait qu'on quitte le Mary.
Jean et Malvin McNair, menacés par la police, quittent les États-Unis en juillet 1972 en détournant le vol 841 Détroit-Miami avec leurs enfants et quelques camarades vers Alger. Alors en suivant l'itinéraire militant de Jean et Malvin McNair, l'historien Sylvain Patieu fait une grande fresque socio-historique sur les luttes antiracistes et anti-impérialistes des années 1970 dans son livre intitulé donc « Panthères et pirates, des afro-américains entre lutte des classes et black power ». Sylvain Patieu nous a accordé le 11 octobre 2022 un entretien pour Civispacem. Alors cet entretien s'est tenu à distance par Zoom et le son n'est pas toujours parfait, mais je pense que le contenu est utile pour comprendre les motivations de ces Afro-Américains qui ont dû fuir leur pays natal.
Je vous ai surtout appelé pour vous parler, bien sûr, de votre dernier livre, hein, « Panthères et pirates, des Afro-Américains entre lutte des classes et Black Power », qui a été publié aux éditions de La Découverte récemment, hein, en août 2022. Et qui retrace donc l'histoire de Malvin McNair, déserteur en pleine guerre du Vietnam. Alors pour nous, les pacifistes, bien sûr, dès qu'on entend le mot déserteur, ça nous intéresse. Bon, mais ce que je voudrais déjà, c'est qu'on vous connaisse un peu mieux peut-être, même si on vous connaît Radio Libertaire, dans l'émission Civispacem, là que nous animons avec l'Union pacifiste, il faut qu'on vous connaisse un petit peu mieux. Hein? Alors bon, je dois dire d'abord que vous êtes bien sûr enseignant et à l'université de Paris 8.
Et puis j'ai quitté Aix-en-Provence quand j'avais 21 ans. Ben, d'abord, je suis passé une année à Lyon où j'ai passé l'agrégation d'histoire. Et ensuite, je suis monté à Paris pour faire ma thèse. Et voilà, j'ai fait ma thèse à Paris. J'ai été nommé après en lycée à Villepinte, en Seine-Saint-Denis. Et puis j'ai été recruté à l'université Paris 8 en 2010. Et donc depuis 2010, je suis maître de conférence en histoire à l'université Paris 8. Et puis en 2012, j'ai commencé à écrire aussi des romans. J'avais déjà écrit des livres d'histoire. J'avais eu notamment la chance d'avoir ma maîtrise qui s'appelait Les camarades des frères trotskistes et libertaires pendant la guerre d'Algérie, qui avait été publié aux éditions Sileps en 2002. Et c'est vrai qu'il y a un peu une continuité, je dirais, entre ce premier travail sur l'Algérie et ce travail sur les pirates de l'air sur Jean et Malvin McNair, parce qu'à chaque fois, c'est travailler sur des personnages historiques, pas des grands personnages, mais des personnages plutôt anonymes, quoi, mais quand même importants pour moi, mais qui à chaque fois étaient en rupture avec leur pays, quoi, qui était alors les porteurs de valises pendant la guerre d'Algérie, ils étaient du côté du FLN au lieu d'être du côté de l'armée française, et Jean et Malvin McNair, ils se sont opposés à la guerre au Vietnam et ils se sont opposés au gouvernement des États-Unis au point d'en arriver à un acte aussi fou que celui de détourner un avion. Alors moi, je suis arrivé là parce que j'ai donc dans mes recherches, j'ai commencé par travailler sur la guerre d'Algérie. Après, j'ai travaillé sur le tourisme social à travers une association qui s'appelait Tourisme et Travail. Et puis, donc, j'ai fait ma thèse là-dessus. Et ensuite, j'ai commencé à travailler sur l'histoire des populations noires en France. Et c'est en travaillant là-dessus que j'ai rencontré un historien afro-américain qui s'appelle Tyler Stovall. Et donc, Tyler Stovall, c'était un ami de Dean et Melvin McNair. Il les avait rencontrés alors qu'il était jeune étudiant au début des années 80 en France et qu'eux sortaient tout juste de prison. Et donc, ils étaient devenus amis et ils avaient milité ensemble contre Reagan, contre l'impérialisme américain de l'époque. Et donc, quand Jean est morte, Tyler m'a invité à la cérémonie en son hommage où j'ai vu Melvin. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser vraiment à leur histoire et que j'ai eu envie de la raconter. D'abord dans un récit littéraire qui s'appelait « Nous avoir planté un chemin caillouteux », qui est paru en 2017, qui était vraiment court et dans une optique plutôt littéraire. Et puis, 5 ans après, j'ai remis le travail sur l'ouvrage. Et cette fois, dans une optique plutôt historique que littéraire, j'ai refait un livre, cette fois aux éditions La Découverte.
Alors, bien sûr qu'il faudra qu'on revienne quand même sur votre livre sur l'Algérie, que malheureusement, je n'ai pas encore lu, mais que je vais lire avec beaucoup d'intérêt. Parce qu'il nous intéressera pour une prochaine émission, Sylvie Spakem, si vous acceptez d'en reparler.
Oui,
et puis, aussi pour Tourisme et Travail, bien sûr, nous avons travaillé, nous aussi, avec Hélène Amblard. Je ne sais pas si vous connaissez cette personne qui faisait beaucoup de livres avec Jacquard, qui avait participé à Tourisme et Travail, qui était une des responsables aussi de Tourisme et Travail. Donc ça nous intéresse aussi beaucoup. Et bon, la littérature, vous êtes passé rapidement sur vos romans, mais enfin, je signale quand même Des Impatientes, Le Bonheur, Pauvre Rengaine, et puis un documentaire littéraire Avant de disparaître, chronique de PSA Aulnay, c'est-à-dire de Peugeot. Vous appelez ça un documentaire littéraire. Qu'est-ce que c'est un documentaire littéraire?
Ben, c'est de la non-fiction, quoi. C'est-à-dire que dans mon travail littéraire, j'ai fait de la fiction. Par exemple, là, j'ai un livre qui s'appelle Forêt furieuse qui vient de sortir chez Babel, donc en livre de poche, où là, vraiment, j'imagine des personnages, j'imagine une histoire. Voilà. Et puis, j'ai fait de la non-fiction. Donc, il y a Avant de disparaître, il y a Beauté parade aussi qui racontait l'histoire d'une grève de femmes sans papier dans un salon de beauté à Paris. Et puis, Nous avoir planté un chemin caillouteux, je le classerai là-dedans aussi. C'est-à-dire, c'est des livres dans lesquels je pars du réel et je n'invente rien. Bien sûr, c'est subjectif, parce que c'est moi qui raconte, mais c'est un peu comme un documentaire en cinéma, quoi. C'est-à-dire, je vais aller à la rencontre des personnes dont je raconte l'histoire, je vais faire des entretiens, je vais partir de leurs paroles, je vais partir de leur voix, et je vais en faire un livre, un récit qui est littéraire, qui m'est personnel, mais dans lequel je n'invente rien. Donc voilà, j'ai un peu ces deux démarches et j'ai aussi des romans jeunesse qui sont sortis à l'école des loisirs.
Alors justement, je crois que votre éditrice habite à Volx, pas loin de Manosque. Hein.
Exactement, Madame Michalon.
À 5 km de Manosque, j'y passais souvent à vélo quand j'étais jeune. C'est elle qui vous a un peu incité à faire des livres jeunesse, apparemment. C'est elle qui vous a invité à écrire pour la jeunesse.
Oui, c'est Maya Michalon qui m'a incité à écrire pour la jeunesse parce qu'on se connaît depuis Aix. On a fait nos études ensemble juste après le bac. On était en prépa littéraire au lycée Cézanne à Aix. Et à l'époque, on ne se doutait pas du tout que moi, je deviendrais écrivain et elle éditrice. Mais on n'a jamais perdu le contact. On est toujours restés amis. Et puis, à un moment donné, moi, je me suis mis à écrire des romans. Elle travaillait dans une association qui s'occupait de littérature jeunesse. Et puis, elle faisait modératrice dans des festivals comme Manosque, par exemple. Et donc, je lui ai demandé de me relire. Et disons qu'elle, en commençant à me relire, elle s'est dit que finalement, le métier d'éditrice, ça pouvait être intéressant parce que c'était, pour elle, il y avait un côté magique à lire le texte d'un auteur et à voir ce qui n'allait pas dans le texte, à faire des remarques, un peu comme une sorte de baguette magique. Et ensuite, l'auteur retravaillait, il lui rendait quelque chose qui était mieux. Et donc elle est devenue éditrice jeunesse. Et à ce moment-là, elle m'a dit, écoute Sylvain, tu as écrit plusieurs romans adultes, est-ce que tu ne voudrais pas me faire des romans jeunesse? Alors moi, au début, j'étais un peu réticent. Et puis après, comme j'ai des enfants, je me suis dit quand même, ça serait bien de, d'écrire des romans qu'il pourrait lire dans pas trop longtemps. Et puis, j'ai un peu compris, finalement, et c'est Maya qui m'a fait comprendre ça aussi, que la littérature jeunesse, la littérature adulte, ça pourrait être aussi exigeant, quoi. Que on n'était pas obligé de faire... C'est pas une sous-littérature, quoi. C'est vraiment une littérature à part entière. Simplement, voilà, je vais peut-être plus aborder certains thèmes pour la jeunesse que d'autres. Mais il y a vraiment une continuité pour moi dans le travail que je fais en jeunesse, dans le travail que je fais en adulte, et même finalement avec mes recherches que je fais en tant qu'historien, quoi. C'est-à-dire, je travaille sur les classes populaires, je travaille sur... Il y a beaucoup de mouvements sociaux qu'on voit dans mes livres, des mouvements de révolte. Donc voilà, tout ça, c'est quand même présent, quel que soit le type d'ouvrage que je fais, quoi.
Il y aura des visages, de la douce musique, et des cœurs de passage, et des rires amnésiques. Il y aura des sanglots et des larmes amères, mais le goût de la paume, le bruit de la mer. Il y aura ce temps qu'il te faut inventer, le sourire d'un absent qui veille à ton chevet, l'amoureuse éconduit, les deuils debout de soi, et la mélancolie qui reste près de soi. Il y aura le silence, la rage qui étreint, le cœur qui se perfore juste entre loup et chien. L'après-midi, l'été, le doux soir qui emmêle la musique entêtée aux odeurs de jasmin qui tient et nous ressemble, les larmes pour un rien et la beauté qui tremble. Je me rêve dissous dans le vent qui caresse, avec tes cheveux jaunes et qui jamais ne cessent. Je ne serai pas loin, ne ferai pas de mal, et nous saurons très bien les fleurs et les étoiles. Il y aura le silence, la rage qui étreint, le cœur qui se perfore juste entre loup et chien. Il y aura le silence, la rage qui étreint, le cœur qui se perfore juste entre loup et chien.
Vous êtes à l'écoute de l'émission Civis Pacem de l'Union Pacifiste sur Radio Libertaire. Vous venez d'entendre une chanson d'Orso Gerenska, un musicien qui a souvent accompagné l'écrivain Sylvain Patieu dans ses lectures musicales. Et oui, Sylvain Patieu ne se contente pas d'enseigner et d'écrire des livres, il lui arrive aussi d'organiser des spectacles de poésie et de danse avec Concordance. Sylvain Patieu, nous y revenons parce que nous parlons de son livre dans cette émission qui s'intitule « Panthère et pirate, des Afro-Américains entre lutte des classes et Black Power ». Sylvain Patieu s'intéresse aussi beaucoup à la jeunesse.
Et justement, vous vous intéressez beaucoup finalement à la jeunesse quand même, c'est... Parce que les thèmes dans vos livres, aussi bien pour la jeunesse, vous avez toujours Un œil sur la jeunesse. Le premier roman, si je me trompe, ça s'appelait Amour Chrome, hein, c'est ça? Le premier, puis, ouais. Mais là, depuis, ouais. vous en avez écrit d'autres, hein, je crois.
Ouais, il y en a, bah, c'est une série, en fait. Le premier, c'était Amour Chrome, le deuxième, Terrain Frère. Et là, il y a Écorceville qui vient tout juste de sortir. Et donc, en fait, dans la série, on suit les mêmes personnages pendant 4 ans. Et dans chaque tome, l'accent est mis plutôt sur un autre des personnages. Et voilà, donc j'essaie d'aborder un peu plein de thématiques différentes dans chacun des tomes. Dans le premier tome, c'était un personnage qui s'appelle Mohamed Ali, qui est un bon élève, mais qui tague en secret, qui est amoureux d'une fille qui s'appelle Aimée et qui, elle, veut devenir footballeuse et qui s'intéresse pas tellement aux garçons. Dans le deuxième tome, c'était Aimée, qui était la personnage principale, et puis il était question aussi des violences policières. Et le troisième tome, donc c'est le personnage de Zako, donc c'est le meilleur ami de Mohamed Ali. Et lui, c'est un personnage qui se fait orienter en voie professionnelle, qui n'est pas très content de ça, il le voit comme un échec. Et il se retrouve dans le Jura pour faire un CAP d'ébénisterie. Et il se trouve que j'ai eu, dans un festival, le festival Les Petites Fugues, qui a lieu dans le Jura, j'ai eu l'occasion d'aller à Moirans en montagne, donc en plein cœur du Jura, donc dans un lycée où il y a une section ébénisterie justement. Et les élèves m'ont fait, j'avais une rencontre prévue avec les élèves, ils m'ont fait visiter leur lycée. Et ça m'a donné pas mal d'idées pour imaginer ce nouveau tome.
Bien, alors je crois qu'on va revenir donc au titre de votre livre, donc Panthère et Pirate. Déjà, on va savoir que Jean et Melvin McNair, il y avait eu déjà un film, je crois, en 2012 sur leur aventure, hein, si on peut dire. Et puis un documentaire aussi de France 3 qui a été tourné en 2012 dans l'endroit à Caen où ils habitaient, c'est-à-dire la cité, ou je ne sais pas comment on l'appelle, de la Grâce de Dieu. Et puis un autre film en 2015, je crois, sur les Black Panthers. Alors là, ils intervenaient pendant une petite partie du documentaire. Alors, on va peut-être résumer un peu la vie de Jean et de Melvin. Bon, moi, je conseille bien sûr plutôt de lire le livre parce qu'il est très documenté et il se lit très, très facilement et j'ai pris beaucoup de plaisir et d'intérêt à le lire. Mais on va quand même résumer un peu leur itinéraire qui est quand même pas banal. Et comment vous avez pu avoir l'idée de rencontrer, vous l'avez évoqué un petit peu tout à l'heure, comment vous avez eu l'idée de vous intéresser justement à ces personnages?
Ben en fait, c'est d'abord par Tyler Stovall, donc mon ami historien, qui est mort malheureusement là en décembre 2021, qui était un historien spécialiste de la France et qui avait dans l'idée, parce que donc lui, il était afro-américain, mais il avait dans l'idée que quand on étudie l'histoire de France, il fallait s'intéresser aussi à la question de la race, entendue non pas comme un fait biologique, bien sûr, mais comme une construction sociale et culturelle. Et c'est vrai que ça paraît évident quand on s'intéresse à l'histoire des États-Unis, parce qu'il y a eu l'esclavage, la ségrégation raciale, et c'est encore vraiment très prégnant. Mais il disait lui aussi, pour la France aussi, il y a une histoire française de la race qui est différente de celle des États-Unis, mais qui est importante à faire. Et comme moi, je travaillais sur ces questions-là, on s'est rencontrés. Et alors, il savait qu'à ce moment-là, j'écrivais un roman de pirate, donc, qui s'appelle « Et que celui qui a soif vienne ». Voilà, et donc il savait que j'étais intéressé par les pirates et il m'a dit voilà, tu sais, moi aussi j'ai des amis qui étaient pirates, c'était des pirates de l'air. Ça m'a paru, c'est un peu fou comme histoire et un peu étonnant. Et donc quand il m'a invité à la cérémonie en l'honneur de Jean, j'y suis allé et j'ai vu Melvin que j'ai trouvé très charismatique et je me suis intéressé à leur histoire, j'ai vu les documentaires, j'ai commencé à réfléchir un peu à leur histoire. Et là, l'humanité m'a demandé de faire un portrait de gens qui habitaient en France. Ça s'appelait « Lire le pays, les gens ». Ils avaient demandé à 50 écrivains, donc c'était à l'été 2015, je crois. Ils avaient demandé à des écrivains de faire le portrait de gens qui vivaient en France. Et j'ai eu envie de faire le portrait de Jean et Melvin, un peu comme une sorte de pied de nez au discours raciste qui est malheureusement on entend trop souvent, en disant « voilà, je vais faire le portrait de gens qui vivent en France, mais qui sont étrangers et qui sont noirs et qui font la France quand même. » Parce que voilà, ils sont très populaires dans leur quartier, ils ont joué un rôle important pour de nombreux jeunes, à tel point qu'aujourd'hui, il y a un stade de baseball qui porte leur nom à Caen. Voilà, j'ai fait ce petit portrait qui faisait une double page dans l'Humain. Et puis, mon éditeur, donc aux éditions Plein Jour, m'a demandé d'en faire un livre. C'est là que j'ai fait Nous avoir emprunté un chemin qualité. Comme je savais qu'il y avait déjà eu deux documentaires, je me suis un peu posé la question, je me suis dit, qu'est-ce que je vais apporter de plus à faire un livre? Et c'est là que mon travail d'historien a été important, c'est que je me suis dit, ce que je peux apporter de plus, c'est d'aller aux archives. Donc, je suis allé aux archives et j'ai trouvé des choses qui n'étaient pas dans les documentaires et que Dean et Melvin, que Melvin, en tout cas, ne m'avaient pas dit. Vous ne savez peut-être pas parce que j'ai eu accès aux interrogatoires, hein, par exemple, des passagers de l'avion qui avait été détourné. J'ai eu accès aux lettres que Jean McNear avait écrites à son juge. Voilà, j'ai eu vraiment accès à de nombreuses archives. Et quand j'ai fait le livre pour la découverte, j'ai fouillé encore plus. Je suis allé aux archives du Calvados, aux archives du ministère de l'Intérieur, de la Justice, aux archives du procès, donc qui sont aux archives de Paris. Et j'ai eu accès également aux archives de l'avocat Jean-Jacques de Félix, qui était l'avocat des pirates de l'air et qui avait autour de lui tout un pool d'avocats. C'était un avocat très engagé qui avait commencé en défendant des Algériens pendant la guerre d'Algérie, des militants au moment de mai 68. Donc voilà, j'ai vraiment creusé la question. Et,
Je vous arrête juste un petit peu sur Jean-Jacques de Félix parce que c'est quelqu'un que nous connaissons bien, l'Union pacifiste, puisqu'il était l'avocat de l'Union pacifiste. Il nous a défendu, il a défendu pendant la guerre d'Algérie les insoumis, les réfractaires, etc., en plus de tous ceux dont vous parlez. Et justement, Irène Terrel, qui est actuellement notre avocate de l'Union pacifiste. Donc,
Terrel, à l'époque, elle était toute jeune avocate et elle faisait partie des avocats, des avocates qui défendaient les pirates de l'air.
Est-ce que ces archives sont bien répertoriées? Est-ce qu'on peut y avoir accès facilement?
Eh bien, elles sont déposées à la Contemporaine, à Nanterre. Et oui, il faut demander une autorisation, mais on peut y accéder. Ouais. Ce ne sont pas des archives secrètes, mais bon, voilà, il faut. C'est les archives, c'est quand même aussi un métier. Hein. Il faut savoir les lire, il faut savoir les analyser. Alors, il n'y a pas que les historiens qui savent le faire, mais c'est vrai que d'être historien, ça aide quand même. Et voilà, donc moi, cette histoire, elle m'intéressait parce que ce qui m'intéressait, c'était de voir aussi ce que ça disait sur la France, en fait. Parce qu'ils ont traversé des continents, ils ont traversé des époques, des moments de militantisme. Hein. Ils ont commencé dans un militantisme révolutionnaire. Ils n'ont jamais été membres des Black Panthers, mais ils en étaient proches.
Alors, ils sont nés, on va peut-être revenir un tout petit peu à leur itinéraire, histoire, à leur chronologie. Donc, Melvin est né en Caroline du Nord, je crois, qui est une région très raciste que j'ai eu l'occasion de parcourir. Qu'en général, les Français, quand ils vont aux États-Unis, bon, ils connaissent un peu New York et puis la Californie ou la Louisiane, mais ils enfoncent rarement dans la Virginie et la Caroline du Nord, où le racisme est très présent, même, je dirais aussi, en Louisiane. Et là, on comprend, quand on connaît un peu la région, ce qu'ils ont pu vivre à l'époque, dans les années 60, hein, c'est ça.
Oui, donc ils sont nés à la fin des années 40, donc ils sont devenus adultes dans les années 60. Et alors, c'est un peu paradoxal parce que d'un côté, ils profitaient en fait des premières avancées du mouvement des droits civiques. C'est-à-dire qu'ils ont pu aller à l'université, ils n'ont pas beaucoup vécu le racisme parce qu'ils vivaient séparément des Blancs, en fait. Donc, ils vivaient dans des quartiers noirs, ils étaient issus de familles quand même qui étaient assez unies et qui leur ont permis de faire des études, tous les deux, Edwin et Melvin. Ce qui n'était pas le cas des autres pirates de l'air qui, eux, venaient d'États du Nord, mais qui venaient vraiment du ghetto et qui avaient été des délinquants, enfin, qui avaient suivi un parcours délinquant. Dean et Melvin, c'est pas du tout ça. C'est vraiment des Américains moyens, Afro-Américains moyens, qui vont à l'université. Mais disons que même s'ils bénéficient de ces avancées du mouvement des droits civiques, ils arrivent aussi à un moment donné où les limites de ce mouvement se font sentir. Et notamment des limites qui sont liées à la violence des Blancs. On pense à l'assassinat, par exemple, de Martin Luther King en 68. Et ils sont également touchés par un sentiment qui n'était pas à l'époque, pas que aux États-Unis, que vous-même peut-être que vous avez connu, qui est un sentiment de révolte de la jeunesse dans les années 60. Oui. Et alors, je ne sais pas, vous étiez peut-être un peu jeune
Oui, non, 68, j'étais à Paris, oui, d'accord.
D'accord, ouais. Et voilà, donc il y avait mes 68,
oui.
Et donc il y avait ce sentiment de la jeunesse, de cette contestation de la jeunesse qui s'est portée, par exemple, pour Melvin, dans la contestation de ses enseignants et de ses coachs. Il considérait que l'enseignement auquel il avait droit à l'université était archaïque, ennuyeux, et du côté de ses coachs, qu'ils étaient autoritaires, qu'ils étaient humiliants. Et donc, il a organisé une révolte des joueurs de l'équipe de foot américain, parce que lui, il avait été admis à l'université grâce, non pas à ses bons résultats scolaires, mais à ses bons résultats sportifs, comme c'est parfois le cas aux États-Unis. Et il était le quarterback, c'est-à-dire un peu le capitaine quoi, de l'équipe de football américain. Et donc, on imagine bien dans les séries américaines, le quarterback, c'est le beau gosse, le plus populaire de l'université, tout ça. Et donc, le fait que ce personnage-là, donc Melvin, entre en rébellion contre ses coachs, bien sûr, c'était assez révolutionnaire pour l'époque. Et donc, il s'est fait virer de l'université.
Well, Ezekiel saw the wheel a-rolling, the great big wheel a-turning over. Ezekiel saw the wheel a-rolling, way in the middle of the air.
Great God!
Ezekiel saw the wheel a-rolling, the great big wheel a-turning over. Ezekiel saw the wheel a-rolling, way in the middle of the air.
Well, great God Almighty, Bible declared, Ezekiel saw the wheel in the middle of the air. Great big wheel and a little bit of wheel, a wheel turning over in the middle of the wheel. The good book says, and the book don't lie, God told Ezekiel to prophesy. Then my God spoke in Ezekiel's mind, he raised his voice and began to cry. He cried, old bones,
old bones are walking.
Great God Almighty, old bones are talking.
Old bones, bones, won't you hear me now, old bones?
You hear the word of God.
Ezekiel saw the wheel a-rolling, the great big wheel a-turning over. Ezekiel saw the wheel a-rolling, way in the middle of the air.
Great God!
Ezekiel saw the wheel a-rolling, the great big wheel a-turning over. Ezekiel saw the wheel a-rolling, way in the middle of the air.
Well, God told Ezekiel to prophesy. Zeke tried to do it, and that's no lie. God sent the wind from the west and the east. Spirit struck him from his head to his feet. He cried, old bones,
old bones are walking.
Great God Almighty, the old bones are talking.
Old bones, bones, won't you hear me now? Old bones,
hear the word of God.
Ezekiel saw the wheel a-rolling, the great big wheel a-turning over. Ezekiel saw the wheel a-rolling, way in the middle of the air.
Well, old Ezekiel tried his best to do the thing the Lord had told him to.
He did his best, that's all he can.
After all, Zeke was a natural man.
Ezekiel saw the wheel a-rolling, the great big wheel a-turning over. Ezekiel saw the wheel a-rolling, way in the middle of the air.
Great more, God, one
Ezekiel
more.
Ezekiel saw the wheel a-rolling, the great big wheel a-turning over.
My man,
over.
Zeke.
Ezekiel saw the wheel a-rolling,
yes.
Way in the middle of the air.
Yes, indeed, old Zeke was wailing that time.
Après cet extrait du Good Book de Louis Armstrong, nous reprenons notre entretien avec l'historien Sylvain Patieu, auteur du livre « Panthères et pirates, des Afro-Américains entre lutte des classes et Black Power ». Sylvain Patieu nous parle de Melvin McNair, étudiant afro-américain, qui après avoir organisé une révolte dans son université en a été exclu dans les années 1960. Il est alors obligé de faire son service militaire et il risque d'être mobilisé pour partir à la guerre du Vietnam, comme beaucoup d'autres d'ailleurs afro-américains.
Alors il n'est pas parti au Vietnam, il est parti en Allemagne, il est parti dans l'armée. Mais une fois dans l'armée en Allemagne, il s'est rendu compte du racisme qui était encore très fort dans l'armée. Et là, il a commencé à arborer les symboles des Black Panthers. Jean, sa femme, lui avait envoyé les journaux des Black Panthers puisqu'elle a été très engagée, très politisée, beaucoup plus que lui au départ, et c'est elle qui l'a politisée. Elle était un peu plus âgée que lui aussi, donc peut-être un peu plus mûre. Et voilà, et donc il a commencé à se faire mal voir aussi à l'armée. Donc on l'a mis sur la liste des soldats qui devaient aller combattre au Vietnam. Et à ce moment-là, il a décidé de déserter. Et donc tous les deux, ils étaient très jeunes, ils avaient déjà deux enfants. Et ils se sont retrouvés clandestins à Détroit. Alors, pourquoi Détroit? Parce que c'était une ville où ils ne connaissaient personne. Et ils ne pouvaient pas rester en Caroline du Nord. Ils se seraient fait retrouver trop facilement. Donc, ils sont partis à Détroit. Et voilà, c'est une époque où il y avait plusieurs influences qui se mélangeaient. Et donc, eux, ils avaient cette influence des Black Panthers, du panafricanisme aussi, un petit peu de religiosité vaudou, de religiosité chrétienne, qui était l'origine qu'ils avaient, et même un côté presque hippie, qui fait qu'ils ont fait une sorte de communauté, ils vivaient dans une sorte d'appartement communautaire avec deux hommes qui s'étaient évadés de prison, George Brown et George White, et avec une femme qui s'appelait Joyce Tillerson. Et donc, ils étaient assez isolés, ils étaient assez en danger parce que il y avait à l'époque à Détroit une milice qui s'appelait le Stress, qui était une milice de policiers qui se baladaient en civil dans les quartiers noirs en essayant de provoquer. Ils se déguisaient en hippies ou en vagabonds. Ils attendaient d'être agressés par des noirs. Et là, ils sortaient les armes et ils tiraient sur les noirs. Et donc, George Brown, qui était un des quatre hommes de cette sorte de colocation, un des trois hommes, pardon, de cette sorte de colocation, s'est fait tirer dessus. Il s'est pris 6 balles dans le buffet et il a survécu. Il a témoigné lors du procès contre les policiers. Et là, ils lui ont dit, la prochaine fois, on ne te rattrapera pas. Et donc, ils ont décidé, la seule échappatoire pour eux, en tout cas, ils le voyaient comme ça, c'était de détourner un avion. À une époque, c'était beaucoup plus facile qu'aujourd'hui de détourner un avion, plus commun, on va dire. Et donc, ils sont partis tous les cinq, avec les deux enfants de Dean et Melvin, avec la fille de Joyce Tillerson, qui étaient des enfants en bas âge, hein, ils avaient 3 ou 4 ans, quoi. Ils sont partis ensemble et ils ont voulu détourner leur avion vers l'Algérie. Donc, ça peut paraître bizarre. Pourquoi aller en Algérie? Parce que pour eux, l'Algérie, c'était le pays qui avait vaincu le colonialisme français. C'était la pointe de l'anti-impérialisme. Il faut savoir que l'Algérie de l'époque soutenait les mouvements de libération et qu'elle concevait le mouvement noir aux États-Unis comme un mouvement de libération. Donc, ils ont décidé d'aller là-bas. Ils étaient aussi influencés peut-être par la lecture de Frantz Fanon, psychiatre martiniquais français, donc, mais qui avait rejoint le FLN pendant la guerre d'Algérie et qui avait écrit Peau noire, masque blanc, donc qui avait beaucoup écrit sur le racisme et qui avait inspiré certains des dirigeants des Black Panthers. Voilà, donc ils se sont retrouvés en Algérie et arrivés là-bas, ils voulaient rejoindre en fait la section internationale du Black Panther Party, qui était dirigé par un personnage assez charismatique, mais pas forcément très sympathique, qui s'appelait Eldridge Cleaver. Et donc, Eldridge Cleaver, c'était un des dirigeants des Black Panthers. C'est quelqu'un qui avait fait de la prison. Il avait notamment fait de la prison pour viol. Donc, voilà, pas un personnage très sympathique. Et les Black Panthers, quand ils sont arrivés en Algérie, ont eu un comportement qui était assez arrogant, pas tellement respectueux par rapport à la population locale. Et ils avaient été accueillis par le gouvernement algérien. Ils avaient une sorte de pension qui leur était allouée. Ils avaient des locaux qui leur étaient alloués. Donc, ils étaient quand même plutôt bien traités au départ par le gouvernement algérien. Mais il y avait de fortes dissensions entre eux. Pour donner un exemple, Eldridge Cleaver, il a tué, par exemple, un de ses camarades parce qu'il le soupçonnait d'avoir couché avec sa femme. C'est quelqu'un qui était très machiste, hein, Eldridge Cleaver. Il y avait une sorte de fascination pour la virilité, pour les armes. Justement, je parle un peu pour l'Union pacifiste, là. Par exemple, Don Cox, qui était un des dirigeants des Black Panthers et qui s'est retrouvé en Algérie, qui a écrit des mémoires qui sont très intéressantes, il racontait que la première association à laquelle il avait adhéré, dès qu'il avait eu 16 ans, c'était la National Rifle Association, la fameuse NRA aux États-Unis, qui vraiment défend le port des armes pour tout le monde et tout ça. Donc, il y avait cette sorte de fascination pour les armes et des règlements de compte terribles entre différentes factions des Black Panthers, qui fait que quand Jean, Melvin, McNear et leurs camarades sont arrivés en Algérie, les Black Panthers en Algérie n'avaient plus aucune crédibilité. Et ils étaient tous en train d'essayer de partir. Donc, ils sont arrivés dans un moment vraiment où ça partait en capitolade, je ne sais pas comment on dit. Et du coup, eux aussi, ils ont voulu quitter l'Algérie à ce moment-là. Et les seuls qui leur ont tendu la main, les seuls qui sont venus à leur rescousse et qui leur ont permis de passer en France, c'était le réseau Curiel. Donc là, on revient encore une fois
à l'Algérie.
La guerre d'Algérie, hein, puisque c'était le réseau Curiel, c'était un des réseaux de porteurs de valises qui était dirigé par ce personnage un peu étrange qui était Curiel, qui était un juif communiste égyptien devenu apatride, qui a toujours été très proche de l'URSS, mais en même temps qui a mis en place un mouvement, d'abord pendant la guerre d'Algérie, et ensuite un mouvement complètement œcuménique, on pourrait qualifier presque de tiers-mondiste, avec des chrétiens, des communistes, des anarchistes, des socialistes. Et donc, c'est eux qui ont fait passer les pirates de l'air en France. Ils ont vécu pendant 2 ans clandestinement, donc de 1974 à 1976. Et puis en 1976, ils ont été arrêtés, sans doute balancés par Heydrich Kieler. En tout cas, j'ai des éléments qui tendent à le laisser croire. Et donc, ils ont été arrêtés, ils ont été jugés en 1978 dans un procès qui a été assez médiatisé en France. Et là, voilà, là, c'est là que Jean-Jacques de Félis et Irène Terrel, entre autres, interviennent. Et donc, c'est un procès qui a été, disons, assez médiatisé, dans lequel il y a eu un comité de soutien. Ils ont écrit un livre depuis leur prison qui s'appelait « Nous, Noirs Américains, échappés du ghetto », où ils essayaient d'expliquer leur situation et ce qui les avait conduits à détourner un avion. Et c'est un procès, finalement, au terme duquel ils ont été condamnés. C'est des peines de 5 ans de prison avec du sursis pour les femmes. Mais finalement, c'est des peines assez indulgentes par rapport à ce qu'ils avaient fait. Et surtout, le procès les a fait apparaître comme très humains. Et le jury a demandé à ce qu'ils ne soient pas extradés. Il y a eu pas mal de pression pour qu'ils ne soient pas extradés, ce qui leur a permis de rester en France. Et bon, ce qui est intéressant, moi, par rapport à ce sur quoi je travaille, sur les processus de racialisation en France, c'est qu'ils ont vraiment été jugés comme noirs. On les a vraiment jugés comme tels, mais ça a été plutôt un atout pour eux. Donc, l'idée, c'était de montrer la situation des Noirs aux États-Unis et d'essayer d'agir sur des jurés français en disant « en France, c'est pas pareil ». Mais bien sûr, en France aussi, il y avait du racisme à cette époque-là. Mais le fait qu'ils soient noirs américains montre bien que, bien sûr, les questions raciales sont importantes, mais les questions nationales, elles sont aussi importantes. C'est pas la même chose à la fin des années 70 d'être noir américain en France ou d'être issu d'Afrique subsaharienne ou des Antilles, quoi.
Sometimes I feel like a motherless child.
Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. A long ways from home, a long way true believer a long ways from home, a long ways from home. Yes, sometimes I feel like a motherless child.
Why?
Why? 'Cause nothing ever happens.
Nothing?
Well, nothing good.
So what's good?
Well, you know, have a ball, man.
You sick?
No.
Hungry?
No, man. I just had myself a whole mess of black-eyed peas and rice.
See what I mean?
I dig. I am a long ways from home, but things could be worse. Sure could.
Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Civis Pacem de l'Union Pacifiste sur Radio Libertaire. Vous avez reconnu la trompette et la voix de Louis Armstrong dans le Good Book. Et nous sommes toujours en compagnie de l'historien Sylvain Patieu, auteur du livre « Panthères et pirates, des Afro-Américains entre lutte des classes et Black Power ». Sylvain Patieu raconte dans le livre comment le pirate de l'air Melvin McNair a été arrêté en France le 26 mai 1976 et emprisonné à Fleury-Mérogis. C'est en prison que j'ai eu mon doctorat en relations humaines, j'étais plus en contact avec la réalité en prison que dans la clandestinité, dira donc Melvin McNair. Le FBI a demandé son extradition aux États-Unis. Melvin choisit Jean-Jacques de Félis comme avocat. Jean-Jacques de Félis ira voir souvent Melvin en prison. Son intention est d'obtenir le statut de réfugié politique pour Melvin et d'éviter à tout prix son extradition vers les États-Unis. Un comité de soutien est constitué, composé entre autres de Jacques Prévert, Jean Genet, Louis Aragon, François Châtelet, Guy Bedos, Bertrand Tavernier, Daniel Guérin, Théodore Monod, Jean et Simone Lacouture, Delphine Séric, Marceline Loridan, des journalistes du journaliste Claude Bourdet, des mouvements comme le MRAP, le Mouvement de la Paix, la Ligue des Droits de l'Homme, présidé par Henri Noguer, aussi le pasteur Jacques Maury et le père Pierre Toula. Melvin écrit souvent au juge Louis Chavanac pour lui expliquer le racisme aux États-Unis. Et il écrit même en 1978 avec d'autres camarades un livre intitulé « Nous, Noirs Américains, évadés du ghetto », dans lequel il fait le récit d'une jeunesse humiliée en décrivant la misère du ghetto, les couples qui se défont, l'alcoolisme, les taudis où courent les rats, la faim, le chapardage et l'engrenage de la délinquance. Lors de son procès, Melvin déclare « Nous sommes nés, nous avons vécu dans un pays où la situation des Noirs est inimaginable pour les Français, discrimination raciale et hontée, relégation dans les fameux ghettos, dont celui de Harlem n'est qu'un exemple. » La défense de l'avocat Jean-Jacques de Félis repose sur une humanisation des accusés et sur la volonté de les rendre sympathiques auprès des jurés. Il réussit d'ailleurs à renverser l'accusation en évoquant la situation dramatique des Afro-Américains aux États-Unis. Melvin est quand même jugé coupable du détournement d'avion, mais les peines sont réduites à 5 ans, dont 2 ans avec sursis. Le président de la cour d'assises est favorable à une libération conditionnelle, et les autorités françaises, chose rare, refusent d'extrader les pirates aux États-Unis. Melvin est libéré en février 1980, après 3 ans, et 9 mois de prison.
Et voilà. Et donc, à partir du moment où ils ont été libérés, pour les femmes en 78 et pour les hommes en 80, ils ont refait leur vie en France. Et là, on voit le lien entre les questions raciales et les questions sociales, c'est-à-dire que Gene et Melvin se sont établis au milieu des années 80 à Caen, dans le quartier populaire de la Grâce de Dieu. Et ils sont vraiment une action auprès de la jeunesse populaire, dans les classes populaires, au moment où la question des banlieues devenait en France une question importante et était souvent vue comme un problème. Avec un racisme, en fait, en France, qui n'était pas forcément un racisme, je veux dire, comme phénomène d'altérisation, hein, d'essentialisation de certaines parties de la population. Ceux qui étaient désignés comme tels, ce n'étaient pas forcément les Noirs ou les Maghrébins, mais c'était aussi les habitants des quartiers, les habitants des quartiers populaires. On parlait du problème des banlieues, des jeunes des quartiers. Et donc, eux, à ce moment-là, ils ont eu une nouvelle forme de militantisme qui était un militantisme local, dans lequel ils étaient éducateurs. Donc, Jean faisait de l'aide aux devoirs et Melvin, ça passait par l'action sportive. Ils ont joué un rôle important dans leur quartier, un rôle vraiment de médiateur. Et ils sont allés vers les jeunes. Ils sont allés vers les jeunes, ils ont essayé d'aider les jeunes de leur quartier.
Il fallait tourner la page. Je n'ai pas avoir un rêve comme beaucoup de gens. J'ai rêvé de retourner en Amérique. Moi, je pense que c'est un faux rêve. Donc, non. Le rêve, c'est de bien vivre, mieux vivre en France, d'être. Capable d'accompagner et aider des gens comme moi on m'a aidé. Le but c'était aussi de policiers, dénoncer les brutalités policières et aussi de mettre en place de réformer la police et changer la façon que ça fonctionne. Donc pas forcément désarmer mais rééduquer et essayer de faire qu'il y ait justice. Donc le fait qu'ils ont de plus en plus de bavures de policiers, donc de plus en plus les gens commençaient à dire stop. Et ce qui était assez impressionnant avec ce mouvement, que ça, il y a tout le monde qui fait partie. Donc il n'y avait pas que les Noirs, il y avait aussi les Blancs, donc les Blancs qui sont pauvres, les gens qui sont classe moyenne, les gens comme ça, c'est pareil. Il y avait toujours, comme ça, c'est pas uniquement, on peut dire Black Lives Matter, mais c'était quand même un mouvement humain. C'est plutôt qui on peut dire, souvent on se tombe dans un piège uniquement droite civique. Donc on peut essayer, il n'y avait que droite civique, donc comme ça, mais si on a commencé dans une droite norme et au niveau de problèmes humains, donc on voit qu'il y a beaucoup de gens qui sont touchés par ce problème humain.
Oui, disons que ils ont continué, ils ont été cohérents dans leur combat pour la justice sociale. Ils l'ont mené pas exactement de la même manière en France et aux États-Unis, mais en France, ils ont envisagé le quartier dans lequel ils vivaient. Ils ont imaginé les méthodes qu'ils avaient connues, eux, quand ils étaient jeunes, c'est-à-dire des méthodes qui existaient dans la communauté noire pour souder la communauté, pour éviter que les jeunes partent à la dérive. Et donc, alors eux, c'était beaucoup à partir de la religion, à partir de la paroisse, parce que voilà, aux États-Unis, ça se passe comme ça. Et en France, ils ont essayé de faire passer ça par le sport, par l'aide aux devoirs, par aussi, ils ont organisé dans leur quartier, ils ont fait partie d'une association qui s'appelait Mieux vivre à la grâce de Dieu. Et ils ont organisé des fêtes interculturelles, ils ont organisé des festivals avec de la musique, avec des débats, des choses comme ça. Et c'était une manière pour eux d'éviter la stigmatisation de leur quartier. Et ils ont été aidés en cela par le fait que, en France, il y a aussi, dans ces années-là, dans les années 80 et 90, même si le néolibéralisme est en train de détruire une partie des services publics, il y a quand même des politiques urbaines qui subsistent et des politiques publiques qui subsistent. Et contrairement à ce qu'il pouvait y avoir aux États-Unis où il y avait des quartiers qui étaient complètement laissés à l'abandon, là, il y a quand même ça, et notamment ben, Melvin, il est repéré par la préfecture comme quelqu'un qui est capable d'intervenir dans le quartier. Et la préfecture, au moment où la gauche est au pouvoir, intervient alors dans un objectif, bien sûr, de pacification sociale, mais n'empêche que ça fait quand même du bien pour le quartier. Elle intervient pour que Melvin soit salarié de l'association de baseball. Et en fait, il est salarié, mais ce n'est pas simplement pour apprendre aux jeunes à jouer au baseball, c'est surtout pour essayer de maintenir la paix sociale, d'éviter de canaliser les jeunes, d'éviter que ça parte en conflit entre les plus âgés et et les plus anciens. Et le fait qu'il soit noir, qu'il soit américain d'origine, qu'il soit avec ce passé-là aussi, qui n'était pas forcément connu de tout le monde, mais que certains commençaient à connaître, ça les transforme en intermédiaires entre diverses populations du quartier, par population plus âgée, plus blanche, population plus jeune, plus d'origine immigrée.
De la bonne tempête, ma tête ivre de l'amour fou, tout ivre encore, je me retrouve une fois encore à tes genoux. Redonne amour qui se répète, redonne-moi amour jaloux. Le monde par-dessus la tête, après tout je n'ai plus que nous, que nous deux qui sommes peut-être la vie de retrouver pour nous. La folie qui remplit la tête, quand le premier cœur venu joue, et tout se troublera peut-être. D'un coup de noyer qui s'entête. Ça pèse de la bonne tempête, ma tête ivre de l'amour fou, tout ivre encore je me répète, comme j'aime être à tes genoux. Redonne amour que rien n'arrête, retrouve-moi à mon genou. Genoux, et vu par la fenêtre que nous avions le corps en fait.
Après cette belle chanson d'Orso Jesenka, musicien marseillais ami de l'historien Sylvain Patieu qui nous parle dans cette émission de Melvin McNair, nous allons entendre un petit peu des réponses que Melvin McNair a faites à des étudiants en master de l'université de Caen en 2012.
Bonjour. Bonjour, je voudrais demander si aujourd'hui on appuie sur le bouton replay, quelles étapes vous effacerez? Voilà.
ça c'est facile, man. J'effacerai tout le côté ségrégation raciale, hein, né dans la ségrégation, le fait que tu es né noir et tu es différent que tout le monde, ça c'est dégagé. Donc déjà ça, donc automatiquement. Toutes les agressions, toutes les choses qu'on a subies et les choses comme ça, effacées. Dégagé. Donc, en fin de compte, si je peux imaginer une vie formidable, c'est comme ici. Effacer.
Donc. Non, mais c'est-à-dire en matière de choix, je parle.
Ah?
En matière de choix, c'est-à-dire est-ce que.
Non, je ferai même plus. Il faut que je raconte une petite histoire. Je me suis rendu compte, un peu après, que ma famille avait beaucoup de culture et beaucoup de richesses. Et donc, j'ai découvert aussi que mon arrière-grand-père, c'était un esclavagiste Il s'appelle R.J. Reynolds. C'est le plus grand fabricant de tabac en Caroline du Nord qui fabrique des sellums, des camels, tous ces cigarettes comme ça. Et c'était mon arrière-grand-père. Et donc, mon arrière-grand-père qui était blanc, qui avait une esclave, qui était ma grand-mère, elle avait 7 enfants, 7 métis, qui lui donnaient d'autres esclavagistes. Donc, j'ai des sons de maître. Donc, je fais partie, je suis le fils du diable, soi-disant. Donc, j'ai des sons de maître. J'ai découvert tout ça, toutes ces richesses-là. J'ai découvert aussi que c'était ma famille qui a donné la terre, ou l'université où j'ai fait mes études, c'était ma famille qui a donné la terre, mon cousin, le deuxième. C'était président, le deuxième président de l'université. Donc, j'ai découvert tout ça après. Donc, automatiquement, si j'avais su ça avant, j'aurais tapé à la porte de mon arrière-grand-père, dit « Papa, je suis ton petit-fils, quoi. » Donc, si je retourne en Amérique, peut-être je tac-tac, je suis ton petit-fils, quoi. Mais bon, on n'est pas encore là.
Est-ce que vous pensez que vous allez revenir aux États-Unis un jour?
Non. Personnellement, c'est bizarre. Non, c'est pas bizarre. Donc, il y avait un moment dans ma vie, on savait, il n'y avait pas de choix. Je suis rendu compte que j'ai vu des chefs de mouvement et eux, ils retournaient en Amérique quand ils voulaient parce qu'ils avaient un peu ras-le-bol et tout. Et comme j'avais des dons dans l'avion, donc j'avais pas de choix, quoi. Donc j'ai fait un truc où il n'y avait pas de retour. Donc j'avais pas de choix de laisser tomber ce côté américain et essayer de s'intégrer en France et faire mon mieux comme ça. Donc voilà. Donc c'est d'avoir un avantage de deux cultures. Donc par contre, suite à Maya et l'avocat et beaucoup des Américains qui pensent que c'est possible. Donc, si ils pensent que c'est possible, peut-être c'est possible. Mais moi, je peux dire, la deuxième moitié de mon éducation, c'est français, même si je ne parle pas bien français, là. Par contre, je me sens plus français qu'américain. Donc, je suis mieux ici.
Towards freedom, you have marched so long. Your fist to rise up never, revering. Are giving in towards the truth you have long sought for, but will never be able to erase the past.
Ton père est né en France, toi tu es né en France, donc vous êtes français, française. Donc voilà quoi, donc après vous êtes nés, on peut dire libres. Nous, on n'était pas nés libres. Nous, on était nés dans la ségrégation raciale.
On a des bons enfants. Je voulais pouvoir les offrir une meilleure vie que ce qu'on avait vécu. Et je ne voulais pas qu'ils étaient obligés de vivre ce que nous avons vécu en tant qu'enfants et adolescentes. Et en plus, je voulais... qu'ils pouvaient vivre dans un endroit où les gens les respectent.
Rain, rocking in the cities. Days and night, you're rocking the cities. Running, rocking in the cities. Days and night, you're walking the city for the first times.
Towards freedom,
your fist to rise.
Towards freedom,
you cry your anger. Ooh. Mm-hmm. Oh.
Towards freedom,
your song will revolt.
Towards freedom,
walking in the city. To be free, you want to live.
traitor grew. To understanding in spite of.
Vous venez d'entendre la voix de Melvin McNair qui chantait et qui s'adressait à son enfant dans un reportage tourné par France 3 Normandie. Et vous avez entendu aussi la voix de Jean McNair, qui a dû faire avec son mari un acte condamnable pour assurer une meilleure vie à ses enfants.
Bon, l'histoire, je vais renvoyer bien sûr au livre, je peux résumer aussi un peu la fin de l'histoire, mais enfin, ce qui m'intéresse surtout aussi, c'est comment ça résonne dans notre époque, ce livre, parce que moi je l'ai lu, ça m'intéresse aujourd'hui aussi. Les questions de racisme, les questions de ce qui se passe aux États-Unis et en France, tout ça, et en même temps, ces personnes qu'on a considérées souvent comme des terroristes et qui, en définitive, l'ont fait par obligation et non pas par choix, et en même temps, ont su après montrer leur personnalité et leur qualité.
Ça résonne de plus en manière, disons que ça résonne déjà de manière, je dirais, presque un peu triste, parce qu'on voit les reculs depuis les années 70 quand même, hein. Quand on voit, par exemple, il y a les reculs en matière de politique urbaine, ça c'est plus récent, mais quand on voit par rapport aux années 70, les reculs en matière de solidarité internationale, je pense qu'aujourd'hui, ils auraient été extradés illico presto, quoi. Ça c'est bien malheureux. Quand on voit, par exemple, ce qui s'est passé pour les Italiens, les vieux militants italiens que la France a voulu remettre au gouvernement italien, où il y a un homme d'une quarantaine d'années qui était à Gênes et qui a été condamné en vertu d'une loi qui date de l'époque fasciste. Il a été condamné pour sa participation à une manifestation à Gênes et il a déjà fait de la prison alors qu'il n'avait rien détruit, il n'avait blessé personne. Et là, il y a de nouveau le gouvernement français envisage peut-être de le renvoyer en Italie. Moi, j'ai signé la pétition. En plus, j'étais présent à Gênes, donc je me rappelle bien de l'ambiance qu'il y avait et de la mort de Carlo Giuliani. Donc, c'est vrai que, on se dit quand même qu'il y a eu des reculs quand même sur ces questions-là. En même temps, ce qu'on peut dire aussi, c'est que les questions de racialisation, aujourd'hui, elles sont peut-être plus mises en évidence qu'à l'époque, c'est-à-dire qu'il y a des mouvements qui en parlent. Et il commence à y avoir peut-être un peu plus une mémoire de ça qu'à l'époque. C'est vrai qu'on a souvent l'impression que c'est très différent la France des États-Unis, et c'est vrai, mais c'est des processus qui existent dans toutes les sociétés, et donc la France n'y est pas épargnée. Et c'est un peu triste des fois que certains considèrent que c'est une question qui concerne les États-Unis et pas la France, ou voir que c'est une importation américaine de parler de race, de parler de ces questions-là. Ça détournerait de la question sociale, alors que moi, au contraire, j'essaie de montrer dans mon livre que la question sociale et la question raciale, elles sont tout le temps entremêlées, quoi. Et les classes sociales et les questions raciales sont entremêlées, quoi. Et c'est vrai que l'histoire de Jean et Melvin McNair, elle est assez révélatrice de ça. Et il y a un déni, une sorte de déni français de ces questions-là, qui est un peu triste parce que ça ne permet pas de bien comprendre le réel, quoi, de dénier. Et puis, moi, j'envisage aussi ces processus de racialisation vraiment comme des processus, des pratiques, et pas forcément comme des identités, c'est-à-dire pas comme quelque chose qui fige, qui devrait essentialiser, mais comme des choses qui évoluent, qui dépendent du contexte, et qui sont complexes, mais qu'on ne peut pas détourner d'un revers de la main comme si c'était... une simple importation américaine. Enfin, l'histoire de Jean et Melvin, c'est quand même aussi une histoire qui est assez belle dans le sens où ils ont rendu la confiance qui leur avait été donnée, quoi. C'est-à-dire que les jurés de 1978 ont espéré les ont entendus quand ils ont dit qu'ils regrettaient d'avoir détourné un avion et qu'ils n'avaient pas de mauvaises intentions et qu'ils voulaient... ils voulaient combattre le racisme et combattre les injustices. Et le reste de leur vie a démontré qu'on avait bien fait à ce moment-là de leur faire confiance, parce que le reste de leur vie, ils témoignent. Finalement, ils ont eu une vie plus longue en France qu'aux États-Unis, mais il témoigne en effet qu'il combattait pour la justice sociale et que certaines violences qu'ils avaient pu utiliser en détournant l'avion, c'était pas quelque chose qu'ils allaient refaire par la suite.
Alors, je suppose que pour détourner l'avion, ils avaient des armes pour menacer, mais ouais. Après, ils n'ont plus du tout utilisé ces armes. Et vous vous dites, la meilleure arme, c'est la poésie. La meilleure arme, c'est la poésie. Alors, est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'on peut encore, s'opposer, changer le monde avec la littérature, la poésie et surtout des livres comme le vôtre aussi?
Alors non, je ne pense pas que la meilleure arme soit forcément la poésie. Hein. Pour moi, si on veut lutter, la meilleure arme, c'est d'être soudé, d'être unis, de faire des grèves, des manifestations, de réfléchir aux manières de faire fonctionner le monde autrement. Donc voilà, c'est plus ça que la poésie. Mais après, la poésie, elle peut y contribuer. Elle peut dessiner d'autres imaginaires. Je suis quand même pas au point de croire que la poésie, c'est la seule chose qui peut changer le monde, bien au contraire. Mais cela dit, je pense que cette histoire d'armes, c'est important quand même, parce que le mouvement le Black Panther Party, c'est un mouvement qui a commencé justement par rapport à la question des armes. C'est-à-dire qu'au départ, ils se sont construits en disant qu'il fallait résister à la violence de la police en étant armé soi-même. Et bien sûr, ça se comprend hein, dans ce contexte des années 60 aux États-Unis. Mais moi, je viens d'un courant, plutôt marxiste, où on pense que la violence est accoucheuse de l'histoire. Mais je pense qu'il faut quand même se méfier beaucoup de cette violence, parce qu'il peut y avoir une fascination pour la violence, il peut y avoir une fascination pour le pouvoir que permet l'exercice de la violence, pour la force que permet l'exercice de la violence. Et à mon avis, ça peut être un frein à l'émancipation. Et d'ailleurs, l'histoire du Black Panther Party, c'est que quand même, ça s'est très mal terminé et de manière très violente entre ses membres. Quoi. C'est-à-dire que voilà, ils se tiraient dessus. Donc, je pense qu'il faut faire attention à ça. Et même si peut-être qu'une certaine dose de violence est nécessaire à certains moments, mais vraiment faire attention de ne pas avoir de fascination pour cette violence et de vraiment s'en méfier. Parce que la violence, c'est quand même quelque chose qui fait ressortir pas forcément ce qu'il y a de plus beau dans l'humanité. Et voilà, donc des fois, il peut y avoir, dans les courants de gauche ou d'extrême gauche, il peut y avoir des fois une fascination pour la violence, pour la virilité, pour des choses comme ça. Et moi, je me méfie de ça, même si je ne suis pas... je suis pas non plus naïf. Je sais bien qu'à certains moments, violence défensive peut être nécessaire. Mais voilà, attention à ne pas chercher la violence pour la violence, parce que c'est une tentation dans laquelle on peut très vite tomber. Et Jean et Melvin, ils sont pas tombés là-dedans, heureusement.
Eh bien, Sylvain Pathieu, je vous remercie. Je crois que vous correspondez exactement à ce qu'on pense, c'est-à-dire que nous aussi, même si nous sommes des non-violents, on comprend ceux qui utilisent la violence à certains moments. On essaie de l'expliquer et puis on ne les condamne pas. Parce que souvent, c'est qu'ils sont poussés aux dernières extrémités et à ce moment-là. Bon, c'est malheureux, comme vous dites, c'est triste.
En terminant cette émission, il me reste à remercier à nouveau l'historien Sylvain Pathieu qui nous a parlé de son livre « Panthères et pirates, des Afro-Américains entre lutte des classes et Black Power ». Alors, je vous encourage, bien sûr, à lire ce livre très documenté et très agréable, d'ailleurs, à lire. Et je pense, d'ailleurs, que ce livre sera une référence sur l'histoire d'un couple d'Afro-Américains qui a vécu avec les Black Panthers et qui a échappé à la violence en fuyant des États-Unis.
Nobody knows all the trouble I've seen. And nobody knows but Jesus. Nobody knows all the trouble I've seen. Glory, hallelujah. Yeah. Lots of trouble floating around these days. Seems like everybody's sick, sick, sick. And I'm right in there with them. Well, there's one thing that's for sure. Ain't no use crying. Just get in there and pitch.
sometimes you need help. That's when you kind of look up, you know. Yes, sir.
Sometimes I'm up, sometimes I'm down.
Now hear me.
Oh, yes, my Lord.
Sometimes I'm almost to the ground.
Now hear me.
Yes, my Lord.
Great God,
although you see me going long, so
now hear me.
Oh, yes, my Lord.
Yes, I have my trials here down
when
below. Everybody's always singing the blues about his own troubles. And the thing to do is to get with the big boss. That's right. Look up sometimes. Nobody knows the trouble I've seen, and I ain't gonna bug nobody about it either. I know where I can get help when I need it. Yes, sir. Every time, maybe you'd better try it.
Quelques annonces pour terminer notre émission. Samedi 15 octobre, c'est-à-dire demain, et dimanche 16 octobre 2022, l'Union Pacifiste présente aux portes ouvertes des ateliers d'artistes de Montreuil à couleur orange, qui se situe 9 rue Barbès à Montreuil, donc au métro Robespierre, entre 14h et 20h pendant ces deux jours. Présentation donc portes ouvertes des ateliers d'artistes de Montreuil, avec des tableaux pacifistes et des œuvres de Laurent Berman, Dominique Bruneton, Édouard, Valérie Faber, Françoise Chauveau, Claude Guen, Marion Lagrange, Jean Touzeau, etc., etc. Et puis, il y aura aussi de la musique et des concerts. Alors, autre chose, une exposition que vous pouvez encore voir jusqu'au 7 novembre, c'est une exposition qui a pour titre « Cabu et la rafle du Veldiv ». On en a déjà parlé, on en parle d'ailleurs dans le numéro de l'Union Pacifiste du mois d'octobre. On a fait là-dessus un petit article et ça se situe au Mémorial de la Shoah à Paris. Cette exposition a commencé déjà avant l'été et elle dure jusqu'au 7 novembre. Alors si vous avez l'occasion de la voir, c'est très intéressant parce que ce sont des dessins de Cabu qui ont été une commande. Mais comment il a vu la rafle du Veldiv? Alors bien sûr, il y a moins d'humour que dans les dessins qu'on connaît de Cabu, et ce sont des dessins très très spécifiques qui méritent d'être vus. Et ensuite, alors, j'ai aussi à signaler une semaine antimilitariste qui se passera à Publico entre le 8 et le 11 novembre. Alors le 8 novembre et jusqu'au 3 décembre, il y aura une exposition qui s'appelle « Fête de l'art, pas la guerre » et qui a été réalisée par Claude Guen, et lors d'une réunion internationale de linguistes du monde entier, Claude Guen a demandé à plusieurs d'entre eux d'écrire la phrase « Fête de l'art, pas la guerre » dans une langue. Alors on va avoir plusieurs langues donc là-bas. Et le mercredi 9 novembre, donc une projection débat « Choisir à 20 ans », un film qui a été réalisé donc en 2017, et sur les réfractaires à la guerre d'Algérie. Et puis le 11 novembre, alors là, c'est l'Union Pacifiste qui va intervenir avec le collectif Non au SNU. En 15h30, donc le 11 novembre, on présentera un petit document qui concerne le service national universel et qui sera suivi d'un débat. Et à 17h, nous aurons un récital de notre ami Pedro Fidalgo. Merci Pedro Fidalgo. Et qui sera suivi par Marc Ave, Nathalie Solance, Nicolas Duclos, Bruno Daraki, Pascal Loquin, Monica Jornet. Et peut-être Fabienne Elkoubi. Donc, le samedi 12 novembre à 19h, il y aura le G-Jet 7 de rock alternatif, anarcho-punk, anti-militariste et anti-impérialiste. Et le dimanche 13 novembre à 16h, un récital de chansons et de poésie anti-militariste, alors toujours avec Marc Ave, Nathalie Solance, Nicolas Duclos, Bruno Duraki, Pascal Loquin, Monica Jornet et, sous réserve, Fabienne Elkoubi. Donc, je ne vous donne pas l'adresse de Publico, vous la connaissez tous. Voilà, donc retenez ces dates, il y a des choses à faire pendant le mois de novembre, le mois d'octobre et le mois de novembre. J'espère que d'ici là, on pourra mieux se déplacer, qu'on aura retrouvé le carburant nécessaire qui ne nous manque jamais. Bon, alors j'ai à vous dire au revoir. Je remercie bien sûr notre ami Pedro qui a assuré toute la technique et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.
sachant qu'un train quitte Rome à 17h23, qu'à 17h40 un autre part de Pise. Quand vont-ils se croiser? Quand vont-ils se croiser? Étant à mi-distance à 18h33, et où s'arrêteront-ils en cas de grève surprise?
Sachant qu'un paysan qui s'en va au marché retranche de francs 50 chaque fois qu'il les ajoute. Dites combien de choux-fleurs, dites combien de choux-fleurs ne seront pas vendus au prix qu'ils ont coûté.
Et combien d'artichauts finiront sur les routes?
Sachant que le terrain cédé par la commune a triplé de valeur en l'espace de 2 ans. Calculez la valeur, calculez la valeur d'un studio vu sur mer à Marina Lagune.
Compte tenu que le maire a touché 5%. Interrogation écrite, fermée, livrée, calibrée, cahier. Vous avez 10 minutes, je vous donne jusqu'au quart. Sachant qu'une ménagère qui fait ses provisions transporte 6 litres d'huile chaque jour dans son chariot. Combien de litres d'huile, combien de litres d'huile seront stockés chez elle durant les élections?
Sachant qu'elle a moins d'huile que de sucre en morceaux. Sachant qu'un ouvrier qui travaille dans le métro met 100 francs de côté chaque mois chez le percepteur. Trouvez ce qui lui reste, trouvez ce qui lui reste pour faire comme les copains et pour perdre au loto.
On pourra tout arrondir au franc inférieur.
Sachant qu'un camion vide pèse 4,5 tonnes, que Jean le camionneur est toujours en surcharge. Combien Jean fera-t-il, combien Jean fera-t-il d'aller-retour Toulouse-Roubaix sans accident,
étant donné que Jean est payé au voyage? Interrogation écrite, fermée, livrée, cahier, cahier. Si j'en vois un qui parle, je le colle pour samedi.
Sachant qu'un pétrolier, malgré sa faible allure, ne peut pas manœuvrer lorsque ses cuves sont pleines. Combien de kilomètres de côtes seront polluées par les hydrocarbures?
Quel est son pavillon et l'âge du capitaine?
Sachant qu'une industrie exporte à l'étranger, tantôt des lots de 100, tantôt des lots de 1000. Trouvez le nombre exact, trouvez le nombre exact de chars et de roquettes exportés chaque année.
On ne tiendra pas compte des années bissextiles.
Sachant qu'en 3 minutes une baignoire se remplit, mais que l'on n'utilise qu'un seul des robinets. Si l'on y plonge un corps, si l'on y plonge un corps, vu que tout corps plongé dans l'eau sera molli.
Dites quand le physicien finira par avouer. Interrogation écrite, fermée, livrée, cahier, cahier, que ceux qui ont fini me remettent leur copie. La la, la la, voilà.
Cette parole que j'attendais sans te connaître, que j'accrochais à ma fenêtre, qui traînait pas dans les affaires des gens qui me faisaient la guerre. Cette parole qui met dans mon vocabulaire de quoi t'apprendre de manière cette parole. Cette parole qui traîne au nez des catastrophes, qui vaut bien sans catastrophe, qui te suffit quand je la chante, qui coule en toi comme le temps chante.
cette parole. Cette parole que tu syllabes après la fête.